Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 42. Aujourd'hui avec Stéphane et Patrice, Patrice et Stéphane, RLP Business, l'émission sur l'économie, l'entreprise, le management et le business qui l'aurait cru dans le Périgord et ailleurs. Pat, bonjour, tu vas bien? T'as passé une bonne semaine?
Bonjour à vous tous, oui, excellente, merci.
Excellente, t'as vu, on a des beaux jours encore, c'est toi qui amènes des beaux jours, pas possible ça.
Oui,
hein,
bon, moi quand je parle du temps, il fait soleil.
Eh bien c'est parfait, on parlait plus souvent, c'est formidable tout ça.
Je vous ferai passer un rib d'ailleurs. Ceux qui le veulent.
Donation.
Et le soleil sera au rendez-vous.
D'accord, mais 20%, t'oublie pas, hein, toujours. Hein. Bon. Alors, aujourd'hui, quelques actualités. Nous allons parler de l'environnement économique français. Nous allons faire ça tout de suite. Ce sont les actualités de la chronique de la semaine. Ne bougez pas.
Les actualités.
Alors, les chiffres viennent de tomber. Les crashs d'entreprises aujourd'hui, c'est pire qu'en 2008, voire qu'en 1992. Nous avons 400 PME qui ferment tous les mois, c'est-à-dire 400 fois 12, ça fait, dis-nous ça.
Ça fait beaucoup.
Bonjour Chiara. Chiara Boucard, 400 x 12 en seconde.
4800. Et qu'est-ce que nous avons gagné, monsieur?
Et voilà, et ben, le droit de repasser à la radio samedi matin. Donc 4800 actuellement faillites de PME en France. Ça devrait monter durant les 12 à 24 mois suivants. Tout ceci est lié à la baisse de la consommation, l'augmentation des coûts, le financement, on a le remboursement des prêts actuellement, la hausse des taux, une crise de la construction que les personnes bien informées ont su voir venir. On vous a d'ailleurs informé sur cette chose-là il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et alors attention, nous sommes à 24% de crash en plus dans la construction, le pire étant pour les agences immobilières. Les activités de conseil en communication plus agences pub et télécommunications se portent extrêmement mal. 2300 transporteurs ont fait défaut en 2023 et 6449 établissements de restauration jusqu'à la restauration rapide qui fait une dégradation de 58,5% pour 2832 établissements. Alors, les seuls domaines qui se portent à peu près bien, ce sont les entretiens corporels. Le sauna, l'amaigrissement, l'esthétique et le pressing, donc encore une fois le haut de gamme. Le haut de gamme semble survivre à la crise, mais ce sont des chiffres qui nous font penser à une économie qui se rapproche beaucoup de la rhétorique de nos gouvernants, hein, rhétorique de guerre, ce qui font dire à Charles Gave et Guy de la Fortelle que le gouvernement ira se servir dans les poches des Français avec une magnifique gigantesque dette de 3100 milliards. Oh le joli petit livret A pour la guerre en Ukraine. Nous recevons aujourd'hui M. Philippe Boucard qui dirige la sous-traitance assemblage STS24 qui est ouvert l'optique des Rénas à Chancelade et qui surtout pour cette chronique pour moi est le président de Serre France Dordogne cabinet comptable. M. Boucard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous confirmez ces magnifiques chiffres que je viens de donner ?
Ils ne sont pas mirobolants, ces magnifiques chiffres, j'ai un peu dit magnifiques d'ailleurs.
D'accord, mais est-ce que la Dordogne s'en sort mieux que le national?
Alors la Dordogne s'en sort mieux que le national, j'ai envie de vous dire non, puisque en tant que président de Serre France, on est en relation avec des chefs d'entreprise qui ont des difficultés.
Agriculteurs
oui, mais aussi ACS, artisans, commerçants et professions de service. J'aurais rajouté, moi, si je peux me permettre, au métier en difficulté, on a les notaires qui sont directement touchés pour ceux qui faisait un gros chiffre d'affaires en transactions immobilières.
C'est intéressant ça.
Vous avez sur Paris des gros cabinets de notaires qui sont pas en redressement mais qui licencient une partie de leur personnel.
D'accord.
Et aussi aux difficultés que rencontrent les entreprises, j'aurais rajouté le PGE.
Oui, le remboursement, il a fallu emprunter durant le Covid, maintenant il faut rembourser.
Voilà, donc on attaque les phases de remboursement des PGE et on s'aperçoit qu'en fait c'était assez...
C'était un cadeau empoisonné quoi.
Voilà, un cadeau empoisonné.
Parce qu'on n'emprunte pas pour payer les factures courantes, normalement on ne fait pas ça.
Ça a, voilà. ça a été la problématique de certaines entreprises qui ont pris des PGE, qui étaient déjà en difficulté.
Ouais. Patrice, donc le dans les clubs d'entreprise, le MEDEF, tout ça, ces chiffres que je te dis là, ça te surprend ou tu les constates aussi sur le terrain,
oui,
au niveau commercial?
Ces chiffres sont vrais.
Oui, je confirme, ils sont vrais.
je veux pas rester sur une note négative parce que c'est pas très réjouissant. Il y a en revanche des entreprises qui se portent très très bien, des activités qui sont même en forte croissance.
Exemple.
Je n'ai pas d'exemple particulier, mais notre petite industrie, en réalité, fonctionne assez bien. Mmh. Alors, je sais bien qu'on n'est pas une industrie lourde, mais on a de très belles entreprises en Dordogne, dans l'électronique, par exemple, qui marchent excessivement bien. Excessif et de trop, hein, parce qu'elles peuvent encore mieux fonctionner, mais elles se portent très bien. Dans l'agroalimentaire, alors c'est pareil, dans l'agroalimentaire, il faut qu'on soit vraiment sur la qualité, d'après ce qu'on constate, hein, pour que réellement les entreprises s'en sortent. Et puis, une fois de plus, on est en train de vivre des crises successives, et celui qui était fragile avant le Covid l'a été encore plus pendant le Covid.
Il n'a pas été aidé durant le Covid, s'il fallait être à jour des charges pour avoir les emprunts déjà.
Il n'a pas été aidé, mais c'est pas dit pour cela que ça a été un bien aussi, cette bulle. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ferment parce que très honnêtement, elles auraient pu aussi fermer avant.
Les agriculteurs aussi qui lancent un grand plan de communication actuellement.
Je ne peux pas en parler, c'est un problème qui est beaucoup plus, à mon avis, important et beaucoup plus difficile à gérer.
Bah, vous l'aurez compris, c'est une émission qui est très portée sur l'économie. Aujourd'hui, nous recevons M. Philippe Goucard. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, c'est Monsieur Boucard, Philippe Boucard. Philippe, rebonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur l'antenne de RLP Business. Alors, Philippe Boucard, c'est un chef d'entreprise pluriel, hein, parce qu'en l'un, il y en a plusieurs. Il est gérant de la société STS24, qui est une entreprise de sous-traitance industrielle, hein, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
D'un magasin d'optique, hein, opticien sur Chancelade, et avec une autre casquette qui est la casquette de la présidence de Serfrance Dordogne. Commençons par STS24. Qu'est-ce qu'on peut dire sous la sous-traitance industrielle? D'ailleurs, c'est dans quel domaine de sous-traitance que vous fonctionnez?
Alors, STS24 et la genèse STS24, c'est d'abord une entreprise qui a été créée pour faire de la réinsertion en 1992 par Jean Boucard, mon papa. Et j'ai repris cette entreprise en 99 à la suite de mes études et de mon service militaire. Quand j'ai repris cette entreprise, il y avait 3 salariés. Mon père n'en vivait pas, il était directeur d'un centre de formation. Il voulait allier les conseils qu'il pouvait donner en formation à des futurs chefs d'entreprise, pouvoir se mettre le pied à l'étrier et puis dire « bon, ben voilà comment ça se passe ». Quand j'ai repris en 99, j'ai pas réussi à continuer la ligne de réinsertion.
D'accord.
Parce que j'ai démarché, il y avait qu'un client quand j'ai repris. Lorsque j'ai démarché...
Un seul client, c'est dangereux.
Voilà. Non, mais c'était une activité assez saisonnière. Les opérateurs chômaient au mois de mai,
on est dépendant, un seul client, on est dépendant.
Entièrement dépendant. Ouais. Donc j'ai repris. Alors, il n'était pas du tout d'accord pour que je reprenne, mais j'ai réussi à le faire changer d'avis. Je ne voulais pas faire autre chose de toute façon. Et petit à petit, je me suis aperçu que la réinsertion ne concordait pas avec les besoins des donneurs d'ordre que je trouvais. Donc petit à petit, on a grossi, on est passé des années 2000 où j'avais, pour vous donner une idée, j'avais 80 mètres carrés d'atelier, à aujourd'hui j'ai 1000 mètres carrés d'atelier de stockage.
Oui, vous avez déménagé, mais vous êtes toujours sur Coulonnier. Hein.
Voilà, j'ai déménagé l'entreprise.
De 3 personnes, vous êtes
monté. Trois personnes, on est monté à 25 et on était 37 cet été.
Il y a 2 caps importants là. Mmh. Vous confirmez ce que j'ai entendu régulièrement, le cap difficile déjà s'est passé à 6-7. Mmh. Il y a quelque chose, et puis le deuxième, c'est près de la vingtaine, c'est ça?
Oui, ça demande une organisation.
Des changements de posture qui se font.
Des changements de posture, sachant que je suis tout seul. Hein, je fais tout, autant le commercial que le RH, que à une époque le magasinier, mais là maintenant j'ai réussi à staffer mon équipe. Quoi,
si vous avez 20 personnes, vous avez segmenté, délégué, et vous devez forcément vous superviser maintenant.
Oui, mais...
Voire vous embaucher un superviseur.
Alors, non, j'ai toujours pas de chef d'atelier. je suis resté responsable de la.
Donc c'est une activité principale, on va dire.
Tout à fait.
Ah, oui, d'accord, oui, ok. Dans vos trois activités, c'est celle qui vous prend le plus de temps actuellement.
Ah,
d'accord.
Oui, oui.
Vous êtes dans l'assemblage, hein, vous êtes sous-traitant.
Alors STS 24, c'est une société de sous-traitance. Donc on fait de l'assemblage sur plan, manufacturé. On va faire de l'ensachage, du tri qualité. Mmh. Et de la préparation en boîte pour alors en boîte carton hein, pour les grandes surfaces de bricolage.
D'accord. Moi j'ai toujours été surpris par ces métiers de sous-traitance parce que quand on n'est pas de la partie, on se dit ben bon, pourquoi on a besoin de sous-traitants pour faire ces tâches-là, parce que quand on voit des usines hyper robotisées, on se dit ben mais ils font pas tout seuls.
Alors non, ils peuvent pas faire tout seul. Vous avez, je vais vous donner un exemple tout simple, un injecteur plastique, il va se consacrer à son métier qui est l'injection plastique. Quand j'arrive avec la compétence de mes opérateurs, parce que c'est mes opérateurs et mes opératrices dans l'atelier qui ont la compétence, je lui amène un savoir-faire.
D'accord.
Voilà. Et le savoir-faire, il a le jour d'après. Il n'a pas besoin de former, lui, ses opérateurs ou ses opératrices pour faire de l'assemblage, pour faire du tri qualité, pour faire.
Donc vos clients industriels se focalisent, ce qu'on peut tout à fait comprendre, sur leur métier de base,
tout à fait.
Leur premier métier, et les métiers annexes, secondaires, c'est là où vous intervenez, vous, en tant que sous-traitant, dans certains besoins.
Tout à fait. Moi, je leur amène la valeur ajoutée sur ce qu'ils n'auraient pas chez eux.
Quoi. Vous travaillez plus avec des entreprises régionales ou vous êtes carrément sur du national ?
Alors, on travaille pratiquement que pour les entreprises régionales, c'est-à-dire tous les départements limitrophes de la Dordogne. Mmh. On est en train de s'ouvrir parce que forcément, avec 25 opérateurs, j'ai besoin d'élargir mon portefeuille de donneurs d'ordre. Donc on est en train petit à petit de grappiller des parts de marché sur les départements plus limitrophes de la Dordogne.
Comment vous percevez la volonté de l'État aujourd'hui de dire qu'on veut réindustrialiser la France, on veut ramener sur le sol de la patrie nos industriels qui en sont partis, recréer de nouvelles activités industrielles. Bon, quelque part, ça va vous amener de futurs clients, tout ça, non ?
Oui, oui, alors ça m'a déjà amené de nouveaux clients, puisque on l'a mesuré dès le Covid, dès la mise en place du confinement pour le Covid.
C'est qu'ils ont moins délocalisé, ils ont renforcé les circuits courts, donc ils sont venus vous voir en local, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Comment on devient patron ? Là, je m'intéresse plus à Philippe Boucard, mais comment on devient patron d'une entreprise comme ça, sous-traitance ? C'est, vous avez fait des études, vous êtes dans le domaine de l'industrie ?
Ouais, mon père m'a toujours appris à prendre des responsabilités. Voilà, les responsabilités, on ne les donne pas, on les prend. Parce que je ne me voyais pas autre part. Sincèrement, je ne me voyais pas avec un patron, je ne me voyais pas dans la fonction publique. Je voulais être maître de mon temps et maître de tout ce que je voulais faire. Voilà, ça a été dur au début parce que forcément, quand il n'y a que trois opérateurs et j'ai commencé opérateur, à la différence que avec les études que j'avais faites, j'ai fait un BTS mesure physique, j'ai fait des stages dans des boîtes industrielles autour de Bordeaux. Et j'ai mesuré, en fait, le potentiel que pouvait avoir l'activité d'STS.
D'accord. J'aime beaucoup ce que vous dites. Pardon, j'arrête de parler, promis. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que souvent, quand on pense qu'un chef d'entreprise, il est dans son bureau, dans son fauteuil en cuir, et puis qu'en fin de compte, voilà, son métier, c'est d'être dans un fauteuil en cuir. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que 98% des chefs d'entreprise, TPE, PME, comme on dit, ils mettent les mains dans le cambouis. Oui, quoi. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il connaît son entreprise, il connaît tous les postes de son entreprise, il a quasiment fait tous les métiers.
Alors, dites-moi, vous étiez de quel milieu social ? Est-ce que vos parents, votre famille étaient dans le milieu entrepreneuriat patronal ?
Alors, j'ai une maman qui était documentaliste dans des lycées pro, et mon père a été directeur du CFPPA, donc il n'était pas de la fonction publique.
Il était salarié.
Alors, il était salarié, mais je
vous aviez des gens autour de vous qui avaient des magasins, qui étaient artisans. Vous avez tout découvert sur le tard, le RSI, l'URSSAF, ce genre de choses. C'était une découverte ou vous aviez une culture familiale déjà ?
Alors ça, c'est la culture de cette gestion-là. C'est mon père qui me l'a donnée.
D'accord. Vous aviez déjà.
Oui, il savait exactement me conseiller sur ces sur ces domaines-là. Mais après, si vous voulez...
Non, mais ça, c'est important. Donc, quand
oui,
vous
c'est important.
Votre première société, vous l'avez achetée, vous aviez quel âge à peu près?
En 99, j'avais 22
oui,
ans.
Oui, jeune.
Donc, 22 ans.
J'ai cru qu'on... Donc, 22 ans, d'accord. Donc, vous avez racheté votre société à 22 ans. Vous avez déjà une connaissance des contrats administratifs françaises, on va le dire. Hein.
Oui,
vous avez économisé quasiment 10 à 15 ans d'apprentissage par rapport à quelqu'un qui arrive et qui va avoir ce parcours sans savoir dans quoi il s'engage. Non, mais disons-le, parce que l'environnement n'est pas forcément très favorable.
Oui, alors, j'ai fait un BTS, donc j'ai une formation qui est hyper technique.
C'est un BTS.
Et je suis un BTS mesure physique.
D'accord.
Donc qui me vouait à être dans un laboratoire qualité.
D'accord, okay. C'était pas un BTS touriste, un BTS.
Non.
Ok.
Ce que j'ai envie de dire, c'est si on a des jeunes qui écoutent cette émission, c'est de se dire voilà, j'ai peut-être gagné du temps parce que mon père avait cette approche-là et a pu me conseiller sur l'entreprise et tout ce que ça pouvait, tout ce qu'il y avait autour de l'entreprise, l'URSSAF, les charges, la comptabilité, des choses comme ça. Par contre, ce temps que j'ai gagné du temps sur ce point-là, mais par contre, j'en ai perdu sur le management, j'en ai perdu sur, si vous voulez, si j'avais fait une école d'ingénieur, j'aurais pas eu la même approche sur l'organisation
on a un peu de management en école d'ingénieur, on n'a pas cette comment administratif et puis la pratique de l'entreprise, mais on a un peu management, c'est vrai, effectivement on a un peu de RH et un peu management. Donc effectivement, vous prenez cette société là vous avez une connaissance administrative. Je regarde, en regardant le CV de loin et autres, que vous avez accordé une certaine importance à l'administratif, à la comptabilité, à la gestion. Je pense que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Autrement, on ne devient pas président de Serre France par hasard. Si vous y êtes allé, c'est que vous y avez investi un certain nombre d'heures, de temps. Pourquoi justement avoir regardé autant la comptabilité et la gestion dans votre parcours entrepreneur?
Parce qu'au début, c'est moi qui faisais ma comptabilité.
D'accord.
Au tout début, c'est moi qui faisais ma saisie. Je faisais presque le boulot que fait un assistant comptable aujourd'hui.
Mmh.
J'étais supervisé par un comptable qui était de Serre France, ça s'appelait ABCD à l'époque. Et alors la présidence de Serre France, elle est venue ensuite parce que ça fait que 2 ans que je suis président de Serre France. Là, pour le coup, je ne l'avais pas prévu.
D'accord.
Cette présidence-là, je ne l'avais pas prévu.
Ça veut dire que vous avez passé du temps avec eux, que vous les connaissiez, que c'est un métier que vous connaissez.
Ça faisait deux ans que j'étais administrateur au conseil d'administration de Serre France Dordogne.
Ouais.
L'opportunité s'est présentée d'en être le président. Je me suis présenté devant le conseil d'administration pour être élu et créer mon bureau. Et alors oui, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse dans Serre France, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, Serre France, on l'associe très vite, vous l'avez dit tout à l'heure, tout de suite, les agriculteurs. Serre France, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 75%, un portefeuille à 75% d'adhérents clients qui sont...
Dans cette tranche-là, c'est surtout vous qui m'intéressez.
Oui, qui sont agriculteurs. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir développer en fait, le portefeuille ACS de Serre France.
D'accord.
Et si vous voulez, historiquement, quand un président de Serre France et depuis la création de Serre France, le président était issu de l'agriculture, on envoie un signal fort. Le conseil d'administration envoie un signal fort aux clients adhérents et au monde de la comptabilité pour dire aujourd'hui, on a un président qui est entrepreneur
dans l'industrie,
hors agri. Moi, j'ai rien à voir avec l'agriculture. Mon activité, en tout cas, n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc, si vous voulez, c'est ce signal qui est important. Okay. Pour les futurs clients adhérents.
Dernière petite question, puis après je renvoie à Pat. STS24, l'optique d'Arena que vous avez, je suppose, après acquis en développement. Serre France, l'entrepreneur aujourd'hui qui a donc, on va dire, je ne sais pas combien il y a la petite Arena, mais 23, allez, vous managez grosso modo une quarantaine de personnes, je pense. Le pourcentage de temps à l'administratif, c'est combien? Moi, j'étais à 20% pour 4 personnes. Pour 4 ou 5 personnes, j'étais quasiment à 20%.
C'est une très, très bonne journée. Alors, je suis transparent avec vous. Serre France, ça me prend une journée par semaine.
D'accord. C'est l'administratif, ça?
Non, c'est pas l'administratif. Voilà,
je veux dire Serre administratif. France,
mais l'administratif sur,
c'est,
sur les
papier,
RENA.
Papier, formulaire, administration française. Moi, c'était une journée par semaine pour 5 personnes.
Ouais. Alors, moi, je sous-traite beaucoup maintenant tout ce qui est administratif. Là, maintenant que vous me posez la question, je m'en aperçois. En fait, mes déclarations de TVA, toutes les payes, tout ce qui est lié au RH, c'est Serre France qui le gère.
Et vous êtes rapproché de quelqu'un pour vous décharger d'un poste lourd, quoi, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ça, c'est aussi une mutation. C'est aussi une mutation du métier d'expert comptable, parce que les experts comptables, à une époque, ne faisaient que la comptabilité. Et au fur et à mesure des années, ont proposé des services additionnels à leur métier qui soulagent bien et qui accompagnent bien les chefs d'entreprise, tels que les services que vous avez cités en termes d'administratif, en termes de RH, des conseils en RH, des conseils en finance, en stratégie. Le métier de comptable n'est plus le métier tableur Excel, comme on l'imagine encore un peu aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout ce métier-là.
Non, ce n'est plus du tout ce métier-là. Il a besoin d'évoluer, ce métier aussi.
D'ailleurs, on prédit la mort des experts comptables dans pas longtemps, avec l'arrivée de ChatGPT. Enfin,
pas les experts, ceux qui font la saisie, mais l'expertise, elle, va rester.
Oui,
mais
tous les assistants l'intellect du métier va rester.
Oui,
mais par contre, tout ce
les petites
qui
mains,
est
saisie,
voilà, tout ce qui est assistant, tous les métiers d'assistance comptable vont être très impactés. Alors, pas forcément par ChatGPT, mais plutôt par la mise en place de la facture électronique.
Ah oui.
Parce que la facture électronique va faire que cette saisie.
Ça sera automatisé. Saisie,
mais voilà, tout
sera automatisé,
bien sûr.
C'est la transition, c'est la suppression du traitement papier, en fait. On arrête de déchirer du papier, on passe tout de manière numérique. Il y a des avantages à ça, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages.
Hein. Je voulais faire cette parenthèse parce que souvent et de plus en plus, les médias nous amènent toujours à des zones sombres et des zones de terreur. Le ChatGPT, enfin l'IA en termes général, en effet, va demander quelques améliorations, quelques changements dans les métiers, mais c'est pas pour ça que tous les métiers vont disparaître, quoi. Le métier d'expert comptable, c'est pas uniquement de saisir des chiffres. Je revenais au parallèle de dire c'est pas un tableau Excel. Le métier d'expert comptable, c'est un savoir-faire. C'est un savoir de lire, interpréter et de projeter l'entreprise à travers ses résultats.
Tout à fait.
Alors,
oui, c'est ça.
Ah, je suis assez content de moi.
Oui, pour en revenir à Serre France Dordogne, voilà, il n'y a pas que des experts comptables. Il y a un service employeur qui s'occupe de gestion RH. Là, vous avez zéro expert comptable. Voilà.
D'accord.
Après, vous avez une partie juridique. Il n'y a pas d'expert comptable dans la partie juridique.
Oui, il n'y a que des professionnels.
Voilà. Les experts comptables vont intervenir sur le pôle comptabilité, où ils vont chapeauter les comptables et où ils vont administrer des conseils de haut niveau pour les chefs d'entreprise, mais ils vont aussi apporter du conseil patrimonial, ce type d'accompagnement que les chefs d'entreprise recherchent.
Le modèle de Serre France, si je ne me trompe pas, c'est associatif.
C'est un modèle associatif
national.
Alors, c'est un réseau national et chaque Serre France par département, puisque il en existe des Serre France qui se sont regroupés de plusieurs départements, mais chaque Serre France est indépendant dans son département.
Ah, je ne savais pas. Et pourquoi ce modèle associatif dans le métier de la comptabilité?
Alors,
parce que vous êtes les seuls, non?
Non. Vous en avez pour différents corps de métier. Dans le bâtiment, ça existe aussi. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais dans le bâtiment, existe aussi ce même type d'organisation associative. C'est venu des agriculteurs. C'est venu tout simplement des agriculteurs qui se sont regroupés pour faire leur déclaration de TVA quand il leur a été demandé de faire leur déclaration de TVA.
D'accord.
Dans les années 80, quelque chose comme ça. Mais la genèse de Serre France existe depuis la fin des années 50.
En agriculteur, d'ailleurs, je tenais à saluer un de nos invités de la radio que nous avions invité maintenant il y a peut-être plus d'un an.
La spiruline.
C'est la spiruline de Razac, Jean-Marc.
Jean-Marc fait partie du conseil d'administration.
Jean-Marc Constant.
Il était à Bordeaux à la préfecture la semaine dernière, lui?
Je ne sais pas. S'il manifestait. Je n'ai pas son emploi du temps.
J'ai vu de bien belles images.
Et je ne dirai
bon,
rien.
Voilà.
Bonjour à Jean-Marc. On a aussi une invitée sur notre plateau Chiara Boucard. Chiara, rebonjour. Alors Chiara, bien sûr, vous êtes la fille, une des filles de Philippe Boucard. Comment vous trouvez votre papa? C'est quoi le papa chef d'entreprise? Comment on pourrait le qualifier? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que c'est l'image du chef d'entreprise qui rentre jamais à la maison?
Pas du tout. Il a tout le temps été là.
Il a du temps pour vous?
Oui.
Donc on peut être chef d'entreprise et un bon papa.
franchement, oui.
Ah, ben voilà, oui. Ça fait plaisir.
C'est beau, ça.
Ça fait plaisir à entendre ça. Ça fait plaisir. Oui, parce qu'on est capable, là, aujourd'hui, enfin, l'image du chef d'entreprise qui rentre, qui ressort, qui voit jamais ses enfants, jamais sa famille, bon, ça, c'était vieilles images. Ah, aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui sont tout à fait capables d'allier les deux. On a aussi de plus en plus de chefs d'entreprise au féminin qui, de par ce fait, sont aussi des mamans. Donc, c'est un métier qui est compatible avec, j'ai envie de dire, un développement positif de la vie personnelle.
Alors, 47 ans, vous avez acheté l'optique des Rena. Vous l'avez acheté ou vous l'avez lancé?
Non, je l'ai créé. Je l'ai créé
avec un copain.
L'optique des Rena va fêter ses 5 ans au mois d'avril.
D'accord. Donc, en fait, vous commencez avec STS24. Vous rapprochez de Serre France parce que c'est une grosse partie que vous arrivez à déléguer quelque part et puis qu'il faut maîtriser en même temps. Et à 42, vous ouvrez une seconde entreprise, l'optique des Rena. Vous avez un parcours d'entrepreneur. Pourquoi vous avez développé une entreprise comme ceci?
Alors, pourquoi? J'ai envie de vous dire, c'est l'opportunité, en fait. Quand l'opportunité se présente, on voit un peu ce que ça peut donner. On peut faire des business plans, mais voilà, moi, c'est si les tripes me disent, faut y aller, j'y vais, quoi.
D'accord. Et l'optique des Rena, vous allez essayer de la développer ou c'est ça de projet? Vous l'avez délégué la gestion à quelqu'un? Comment ça se passe?
Alors, l'optique des Rena, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est sur un métier qui est, comme à Serre France, un métier qui est réglementé quand même. Réglementé
technique,
dans le sens où.
Spécificité.
Voilà, où vous pouvez pas avoir n'importe quel type de profil dans le magasin. On est obligé d'avoir un opticien qui a son diplôme.
D'accord.
Donc, sur un marché où les diplômes sont assez rares et demandent des rémunérations qui sont assez élevées, c'est compliqué de mettre un opticien dans un magasin.
D'accord. Ok. Et actuellement, il y a combien de personnes au Rena?
Au Rena, il y a une personne.
Une seule personne?
Une seule personne.
Vous pensez en ouvrir d'autres ou
Alors, au tout début, j'avais dans l'idée de rester sur un modèle indépendant, mais d'avoir plusieurs magasins, de façon à faire des économies d'échelle au niveau des achats.
Ouais.
Voilà. Là, par contre, le Covid est passé. Là où pour STS24, ça a été une grosse opportunité de développement, sur le magasin des Rena, le Covid a freiné le développement de l'optique des Rena.
Ok. Bon. Eh bien, c'était Philippe Boucard aujourd'hui avec nous sur LP Business. On voulait regarder ce que c'était qu'un entrepreneur en Dordogne. Effectivement, c'est faisable. On peut entreprendre en France, même si l'environnement, parfois le terreau, n'est pas très fertile. Il y a encore des gens qui peuvent le faire. Vous arrêtez où, M. Boucard? Vous allez monter jusqu'où? Quelle est votre limite?
Je m'en mets pas de limite, en fait.
Vous n'en mettez pas? Vous avez un objectif quelque part? Vous êtes bien comme ça ou vous allez continuer à essayer de vous développer?
Ah non, on continue à développer STS.
Vous avez en vous, vous voulez continuer de vous développer, continuer de construire.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est une question de caractère et de mentalité. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça.
Non.
Ok. Patrice, à la semaine prochaine.
Bien sûr, à la semaine prochaine. Bon. Merci, Madame Boucard.
Merci, Chiara, d'être venue nous voir.
Bon, mais merci beaucoup de nous avoir invités, Patrice et Stéphane.
Allez, à tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir à tout le monde.
RLP Business.
Ma petite entreprise. Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.